live. Soyez les bienvenus avec Léa Kadobudadi.
Oui.
Alison Winner.
Bonjour.
Daniel Morel.
Bravo, Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bravo, Tanguy.
Et notre invité est Christophe André. Alice sera là tout à l'heure. T'es pas encore là normalement, Ali. Ali sera là tout à l'heure pour nous parler de ces conférences qui vont avoir lieu sur Inter. C'est une nouveauté, trois conférences autour du bien vivre ensemble. Christophe André, bonjour, merci
bonjour.
De venir à notre micro. C'est bien, je retrouve la voix douce du CD.
Ouais, moi aussi, ça m'a fait du bien hier.
Est-ce que vous pouvez dire un truc très calme?
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Vous énervez c'est jamais
bon si, bien sûr.
Si, si, là, elle était à fond.
Non,
non mais genre, il vous manque un truc dans le frigo, est-ce que vous criez?
Non, 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 mais l'idée...
Il est où le beurre ?
L'idée de la méditation, c'est pas de ne jamais s'énerver, c'est de le faire moins souvent, moins violemment, moins bêtement, voilà, d'en faire
s'énerver
un peu
bien.
Moins.
C'est quand la dernière fois que vous vous êtes énervé, alors ?
Quand il a su qu'il venait à l'émission, il a besoin d'attacher de presse.
Ça dépend de l'intensité de l'énervement, mais
alors une intensité
hier soir,
moyenne.
Avec mon épouse, elle a dit un petit truc qui m'a un peu énervé.
Elle a dit quoi ?
Une paire de baffes, c'était réglé.
On n'en est pas. Elle croit que je travaillais trop et que j'aurais pas dû accepter l'invitation aujourd'hui, par exemple.
Ah ouais, d'accord. Il était alors, pas loin.
Donc là, je m'adresse à la mienne. Si elle fait ça, je te raconte même pas comment ça va pas être possible. Donc trois minutes à méditer, c'est la proposition que vous faites, publiée chez Iconoclast. Vous avez fait des comment on appelle ça, des pastilles, une émission de radio en tout cas, avec des exercices pour apprendre à méditer en pleine conscience. L'idée pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais vraiment médité,
réfléchi,
oui, réfléchi encore moins, hein, si je veux, mais alors méditer, parce que j'ai essayé de faire des exercices.
Bon,
si, j'ai essayé de me tenir
dos droit,
les pieds à plat, les mains posées sur les cuisses. D'ouvrir
les cuisses de qui ?
D'ouvrir les miennes, pour une fois, d'ouvrir les épaules et de me concentrer sur le souffle et la respiration. Mais quand, surtout l'exercice le plus dur, et d'ailleurs vous le suggérez dans votre livre, c'est de ne pas le modifier, ce souffle, de ne pas changer sa respiration, ouais. Mais plutôt de se concentrer sur à la fois le rythme de la respiration, de ce mouvement, à la fois aussi ce que ça provoque mécaniquement, j'ai envie de dire, dans les poumons et dans le ventre, et de tenir, et il faut le faire plusieurs fois par jour. Après, c'est, le problème, c'est de trouver, mais vous dites, on peut le faire dans le bus, on peut le faire dans le métro,
ouais,
dans la salle d'attente.
Ouais. En vous écoutant, oui, bien sûr. Mais l'idée de la méditation, c'est de retrouver un état qu'on accoste régulièrement. Vous dites, j'ai jamais médité, mais je suis sûr que vous avez déjà vu votre cerveau partir en transe méditative.
Il n'y avait aucune évacuation à faire. Hein.
En regardant un feu de bois.
Question encore. Cerveau, Nagui voyage très léger.
Oui, dans la contemplation.
Encore eut-il fallu en avoir un.
Non, mais c'est dans la contemplation de la nature, par exemple. Oui, quand
je suis totalement d'accord.
La mer, alors vous dites, feu de bois, et là, vous êtes en état méditatif.
Absolument. Alors, vous dites feu de bois et mer, mais on n'a pas toujours les moyens, oui. Justement, d'avoir un feu de bois à portée de main ou de voir la mer, donc concentrons-nous sur le souffle.
D'où ces exercices, voilà. Effectivement, proposés dans
alors,
le bouquin.
Alors, la méditation a toujours été importante dans la nature humaine, souvent récupérée par les religions. Vous dites, on va vers la méditation bouddhiste, mais laïque.
C'est-à-dire, en fait, la méditation, au départ, c'est un outil de spiritualité, de foi, de religion. Mais la révolution qui est en train de se produire, c'est pour ça qu'on en parle tant aujourd'hui, c'est que nous avons mis au point, enfin, je dis nous, je n'ai fait que suivre, hein, j'ai reçu les enseignements des concepteurs de ces nouvelles approches, des techniques de méditation laïques et qui ont été étudiées scientifiquement, etc. Ça, c'est la première fois qu'on dispose d'outils laïques, d'où leur utilisation dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça, et c'est aussi une forme de méditation, la pleine conscience, qui est facile. Même si vous avez eu du mal, même si, au fond, quand on essaie...
J'ai du mal parce que j'ai le sentiment d'être une espèce de pile électrique qui ne s'est pas restée deux secondes assis. Et,
qu'est-ce
que t'as un problème, toi? Et de se dire, est-ce que c'est pas, perdre du temps que de rester à rien faire?
Il y, y a plein de façons de perdre du temps. On peut perdre du temps en lisant une histoire à ses enfants.
En acceptant une invitation.
Ah, pas du tout.
On peut perdre du temps en faisant l'amour. On peut perdre du temps
en faisant des bonnes choses. Non, arrêtez.
Mais cette question de perdre du temps, c'est un truc fondamental. C'est-à-dire, pourquoi suis-je venu au monde ? Est-ce que c'est pour savourer l'existence ? Pour me réjouir ? Ou est-ce que c'est pour être rentable et performant ?
Non, c'est pas rentable et performant. C'est raconter des histoires. Raconter des histoires.
30% du volume commercial de France 2, c'est vous.
Raconter des histoires aux enfants, c'est essentiel, justement.
Eh bien, méditer, c'est essentiel aussi, figurez-vous.
Et ça sert à quoi ?
Ça sert à quoi ? D'abord, à quoi sert de raconter des histoires aux enfants ?
Mais ça entretient une relation affective forte, un imaginaire. Je me souviens encore des histoires que mon papa me racontait. Donc on se construit avec ces moments-là, avec cet imaginaire, en inventant des histoires.
C'est un rituel important.
Oui, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais puisque vous me poussez, c'est drôle aussi de raconter des histoires aux enfants et de les construire ensemble, c'est-à-dire de commencer sur une piste et de laisser l'enfant suggérer la phrase suivante et de continuer ensemble comme ça et de construire. Mais c'est un moment privilégié, même si on ne se disait rien, même si c'était simplement se prendre dans les bras l'un l'autre, c'est pas du temps perdu. Ouais. Mais être seul dans une pièce à s'écouter respirer, je me demande s'il y aurait pas mieux à faire avec justement les
proches de sa
famille.
Surtout quand on est asthmatique, c'est angoissant.
Avec des amis, avec des personnes qui sont seules et qui auraient besoin d'une attention particulière à ce moment-là.
Ouais. Mais en fait, tout ce que vous avez raconté sur lire une histoire à ses enfants ou l'inventer peut s'appliquer à la méditation. Ce sont des actes d'humanité. Ce sont des moments où on s'accorde le temps d'être des humains et pas seulement des robots qui vont être productifs, qui vont être hyperactifs. Donc, que ce soit dans la solitude ou dans la présence, c'est la même chose. Parce que
vos 40 exercices, c'est souvent seul, hein.
Oui, mais ça te rend peut-être mieux disposé pour envisager la suite. Absolument. Par exemple, si tu médites avant d'aller raconter une histoire à tes enfants...
Il faut avoir le temps, sinon.
Oui, mais après, je crois que dans le livre, en fait, vous indiquez que même 5 minutes...
Trois minutes.
Mais même si on se dit 5 minutes, dans une journée, 5 minutes, on perd quand même pas mal de temps à regarder sur notre téléphone portable, à répondre à des appels qui sont sans doute pas indispensables.
Faut se détacher.
Et je me dis 3 minutes assis sur une chaise à juste fermer les yeux, respirer, et peut-être qu'on est plus disposé à être heureux.
Pour exploiter les moments perdus, comme dans les salles d'attente, comme dans les transports, Oui. Enfin, j'ai fait ça au volant de la voiture, c'est super dangereux, parce que j'ai fermé les yeux, j'ai une concentration sur le souffle.
Tu peux méditer les yeux ouverts.
Le policier n'était pas content. Hein. Donc, quand on dit à quoi ça sert, pour vous, est-ce que ça donne une dimension différente aux autres moments?
Il n'y a pas que pour moi, on a quand même des données qui montrent que les personnes qui méditent régulièrement voient diminuer leur niveau de stress, ont une meilleure stabilité émotionnelle. On parlait tout à l'heure de se mettre en colère, continue de se mettre en colère. Hein. L'idée de la méditation, ce n'est pas de gommer toutes nos aspérités, c'est de nous rendre un peu moins cons, si j'ose dire. C'est-à-dire moins
impulsif,
moins agressif, moins...
On est d'accord, hein. On l'invite et il nous traite. On est d'accord.
Il nous traite, j'adore, il nous traite. On a 10 ans là, c'est immédiat.
Il m'a traité, d'accord.
Donc, plus ça.
Ça améliore aussi notre attention, notre capacité à résister à ce que vous disiez tout à l'heure, à résister à toutes les sollicitations digitales aussi. Quand on médite, on s'aperçoit à quel point c'est absurde de passer 40 fois par jour ou plus, 40 moments par jour à regarder si on a eu un mail, un SMS, un tweet,
on devient esclave. Je suis totalement d'accord. 3 minutes à méditer, on va continuer d'en parler avec vous, Christophe. Écoutez aussi quelques exercices sur le souffle, la bienveillance, le sommeil aussi. Essayez de trouver comme ça des images positives avec lesquelles on peut s'endormir et se laisser ne pas avoir peur de dormir aussi. C'est ce que vous dites et ce que vous expliquez.
Important.
Non, mais j'ai vraiment lu, essayé de pratiquer en tout cas les exercices. Maréchal, avez-vous compris pourquoi Christophe André, notre psychiatre, était notre invité ?
Mon cher Nagui, je vais vous épater. Non seulement j'ai pas oublié le pourquoi de la venue du docteur Christophe André, mais encore, chose assez rarissime pour être apportée, je me suis trouvé 5/5 d'accord avec vous quand tout à l'heure, vous avez félicité GNB, le rédacteur-chef très 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 mal rasé de la bande originale, alors que celui-ci, en vous voyant approcher, de peur de se prendre, comme chaque matin, se prendre des coups, avait gardé son casque de scotter tout en se protégeant avec une chaise, vous lui avez crié « GNB, invitez un psychiatre de Sainte-Anne, c'est super !» Mais 1 000 milliards de 1 000 babouches en peau d'enfant, c'est tous les jours qu'il faudra le faire venir pour soigner les déséquilibrés, les détraqués, les agités du bocal et les obsédés de cette clique de dingo supposée m'épauler. Dans son service, Christophe André a affaire à des cas très lourds, alors ici au moins il ne sera pas dépaysé. Ceci dit, Maréchal, avez-vous ajouté, Nagui, avec un sourire ironique, le bien vivre ensemble, si cher à Christophe André, s'il y a un endroit sur Terre, avec la Syrie, la Malaisie et le PSG, où il admettra enfin que cette notion est une utopie absurde, c'est bien le studio de la bande originale. Et c'est vrai, monsieur André. Bonjour, monsieur André.
Bonjour.
J'ai pensé qu'il vous fallait bien du courage et les avoir bien accrochés pour venir expliquer à un type aussi malfaisant que malodorant, Daniel Morin, ce que peuvent être les effets bénéfiques de la bienveillance. Mais j'avoue que moi aussi, un jour, j'ai perdu foi en la bienveillance. C'était en 1954, rescapé de la bataille de Gang Bang Phoc, à l'invitation de Mathieu, un de mes anciens légionnaires, qui était devenu moine bouddhiste sous le nom de Dharma Dirladada. Par taquinerie, les bonzes le surnommaient aussi Mathieu Ricard, car il n'avait pas renoncé à ses 3 litres de pastis quotidien. À son invitation, je me rends dans son monastère pour méditer, retrouver l'estime de moi-même, perdu dans les combats sans pitié contre les Viet. Et là, soudain, alors que j'allume un bâton d'encens en chantant « Tiens, voilà du Bouddha !» C'est l'explosion. Dharma Dirladada était un traître au service des Viet Minh. Il avait piégé l'encensoir avec de la grenaille. Résultat, j'ai eu le postérieur criblé, grillé au 7e degré. Et depuis, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes de suite. Aussi, je dois me retirer, mes amis, non sans vous avoir souhaité une émission zen et apaisée.
Merci beaucoup, Marcel.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Pourquoi vous êtes devenu psychiatre, Christophe André ? Quel a été votre moteur ?
Comme tous les psychiatres, pour me soigner et pour soigner tous les malheurs que j'avais vus autour de moi en étant enfant.
Et est-ce que vous parlez toujours comme ça, tous les psychiatres ? Je vous trouve tous super zen. Je trouve que vous avez tous une voix, alors, la vôtre
comme
en
Boris,
particulier.
Comme Boris Cyrulnik.
Oui, vous avez une sorte de quelque chose de droit dans la parole, comme s'il n'y avait pas d'aspérité, ça remonte, ça redescend. Je vous trouve bien un calme.
Et alors, c'est une musique
douce.
Qu'est-ce que tu trouves à cette voix ?
Non, je trouve ça étonnant.
Non, mais c'est sans doute une déformation professionnelle. C'est-à-dire le calcul, il est simple. Les gens qui viennent nous voir sont déjà assez stressés, angoissés comme ça. Si on en rajoute en parlant vite, en étant agressif avec notre voix, on leur rend pas
sans être agressif. Vous pouvez accélérer votre débit, ce que vous faites là maintenant, ou alors respirer entre chaque mot, garder votre accent toulousain
qui chante involontaire.
Mais tant mieux,
c'est joli.
Mais tant mieux, c'est joli.
Qui chante.
Enfin, si vous pouviez le gommer, ce sera pas plus.
Mais il y a cette voix suave, il y a cette douceur en tout cas dont vous servez. Vous dites c'est plus qu'une tendance en ce moment, cette méditation en pleine conscience. Ce qui est sûr, c'est que toutes les religions, toutes, sans aucune exception, vont vers la méditation, évidemment dans un but généralement sacré. Là, la méditation laïque va vers le contrôle de soi, ou en tout cas la découverte, aussi bien de son souffle que de chaque partie de son corps, parce que vous dites aussi, concentrez-vous sur votre corps.
On médite avec son corps, effectivement. C'est pas juste méditer, c'est pas réfléchir les yeux fermés, immobiles. C'est aussi se rendre présent à son corps, et c'est aussi observer la manière dont le monde a un impact sur nous, la manière dont finalement nos difficultés et nos bonheurs nous les accueillons ou pas. Quand on médite, on ne cherche pas forcément à atteindre un état de zen, de sérénité absolue. On peut méditer aussi sur ses souffrances, sur ses difficultés. C'est une manière de digérer notre vie, de la comprendre et puis de revenir vers elle. C'est pas une façon de se couper du monde.
Mais de calmer un peu la pression aussi.
C'est ce qu'on dit souvent, c'est une manière de répondre à ce que la vie met en travers de notre chemin plutôt que d'y réagir impulsivement. Donc, quand on prend le temps d'observer ce qui se passe en nous et de revenir vers la situation, en général, on a fait baisser la pression assez naturellement. Pas toujours, parfois. Vous savez, ça n'est pas parce que vous méditez que vous renoncez à gueuler, à vous mettre en colère, à ne pas être d'accord. Ce n'est pas non plus une sorte de polissage de toutes les aspérités.
En voiture, par exemple, quelqu'un vous grille une priorité, brûle un feu, vous rentrez
dans une fixation.
Est-ce que là, vous prenez 3 minutes pour méditer, ou du tac au tac, vous pouvez réagir en disant...
Un truc d'oiseau. Voilà.
Non, mais il y a deux choses. D'abord, il y a le
colibri.
Fait...
Colibri. Colibri. Voilà. Rouge-gorge.
Toucan.
Ça, c'est agressif.
Voilà. À toucan, c'est plus agressif.
Travaille sur toi.
Ouais. Ça fait penser à Boucan. Ouais.
Et il faut rester concentré pour vous répondre. Hein,
oui. C'est un petit exercice.
Donc, la question, c'était donc...
Je sais plus.
Comment vous réagissez?
La question, c'était le feu rouge et le...
Un incident de la vie quotidienne qui, dans son jaillissement, vient vous frapper. Vous ne pouvez pas dire, je vais méditer 3 minutes.
Non, parce que votre corps et votre cerveau commencent par réagir sur la rousse pétance. Quoi. Il fait chier, quelqu'un, et vos muscles...
Voilà, doucement, Christophe.
Ça y est, on l'a perdu. Il a tenu 19 minutes.
On l'a perdu.
On a réussi. On a réussi.
Le mec, restez calme. 11h19. Fais chier.
Même, on est quand même 5 hein, contre lui. Hein.
Ouais, mais, je suis assez d'appeler Vigile. Oui.
Dans l'instant, vous prenez conscience. C'est-à-dire, vous sortez de votre énervement et vous dites... Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est ça que nous apprend la méditation, à choisir si on veut y aller.
Ça s'appelle regarder s'il est plus musclé ou pas que vous, le gars qui vous a rentré en voiture.
Ça fait sans doute partie
de la méditation.
Non, mais j'imagine que si on a bien médité en amont, on va avoir un rapport à cette altercation beaucoup plus détendu en se disant bon, il s'énerve, au fond, c'est pas très très grave, on va même pas lui faire un geste insultant et on laisse passer. Oui.
Moi j'ai une question médicale, est-ce qu'une personne atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette peut méditer?
C'est sans doute pas la chose la plus facile.
C'est le syndrome de ceux qui s'énervent, qui sortent des gros mots ou qui s'énervent tout seuls.
De manière impromptue, sans aucune raison. Parfaitement normal. Voilà,
c'est ça.
Mais qui est une vraie
maladie. On ne va pas le reproduire ici.
Et on peut répondre sérieusement à ça quand même. Ce qu'on sait, c'est que tous les symptômes du Gilles de la Tourette, donc les tics musculaires, les petits tics vocaux, dire des gros mots, faire des gloussements, etc., sont aggravés par le stress et améliorés par l'apaisement intérieur. Donc, apprendre à se relaxer, à méditer, va aider ces patients-là aussi.
La méditation a des bienfaits, ou en tout cas, c'est un vecteur religieux. Vous dites la méditation laïque, tout le monde peut la pratiquer sans vénérer une quelconque religion. Les scientifiques, là aussi, vous appuyez dans votre livre, vous dites les scientifiques reconnaissent maintenant les vertus de la méditation, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que le monde professionnel aussi se tourne vers cette mode, entre guillemets, ou cette tendance?
Oui, non mais c'est une mode, c'est clair. Alors ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode que c'est forcément mauvais, répréhensible ou bidon. Il y a une mode à propos d'une démarche extrêmement précieuse, d'où l'intérêt. Ça a commencé dans le monde de la santé, on a commencé à l'utiliser pour mieux soigner. Nous on fait ça à Sainte-Anne depuis 2004, mais en fait les premiers travaux c'est les années 90. Ensuite l'école s'y est intéressée.
Pour mieux soigner quoi? Pour me soigner les problèmes psychologiques, les problèmes mentaux, ou c'est pour mieux soigner tout en général?
Il y a trois choses. Ça a commencé à être testé auprès de personnes qui avaient des maladies physiques graves, des personnes en fin de vie par exemple, qui avaient des cancers, parce que dans ces cas-là, non seulement vous avez les souffrances liées à la maladie de votre corps, mais en plus vous êtes mort de trouille, vous êtes très anxieux, vous êtes très préoccupé. Or, une fois de plus, le stress est le grand aggravateur en médecine, quel que soit le trouble dont vous allez souffrir. Et l'apaisement, l'équilibre intérieur est un protecteur, un améliorateur. Donc déjà, on accompagnait ces personnes souffrant de maladies physiques sévères pour les aider, j'ose pas dire à mieux vivre leur maladie, mais il y avait un peu cet enjeu-là. C'est-à-dire, quand j'ai une maladie grave, si en plus je suis très tourmenté intérieurement, je double ma souffrance. Ensuite, on l'a testé en psychiatrie. On s'est aperçu que c'était un très bon outil pour limiter le stress, l'anxiété, la dépression et surtout pour aider les gens à ne pas rechuter sans arrêt. Et puis, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que globalement, la méditation est bonne pour la santé. Elle freine les mécanismes inflammatoires, elle inactive un certain nombre de gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous savez, vous avez des gènes qui vous prédisposent au diabète, à ceci, à cela. La méditation, mais comme d'autres choses, comme l'exercice physique...
Comme le yoga.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a de la méditation dans le yoga.
À inactiver certains de ces gènes, elle freine le vieillissement cellulaire. Donc, il y a quand même tout un tas de trucs assez passionnants.
Là, on était dans le côté médical, vous avez commencé à dire au milieu scolaire aussi, la méditation. Est une tendance. Vrai que chez les plus jeunes, il y a des maîtresses qui organisent des moments de respiration de toute la classe.
Et ça, j'ai la sensation que ça existe depuis très longtemps.
À l'école, oui.
Moi, quand j'étais à l'école, on nous faisait faire un temps calme, bras croisés. On nous demandait d'écouter notre respiration quand il y avait un chahut pas possible et qu'on voulait reprendre un peu les rênes de la classe. Et je ne suis pas toute jeune, en fait. Donc, ça existe depuis quelques
Mais vous savez, la méditation, c'est du bon sens. Donc, beaucoup d'enseignants enseignants avaient déjà cette notion qu'en apprenant ces fameux temps calmes aux petits en maternelle, en tout cas après c'est plus compliqué, mais ça leur faisait du bien. Et donc chez les enfants, la méditation aide à développer les capacités attentionnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau de nos enfants est totalement pollué, ravagé au point de vue attentionnel par le monde digital, par les jeux vidéo, par l'usage trop intensif de l'ordinateur, du téléphone portable. Donc ils ont beaucoup de mal, les gamins,
à se concentrer. C'est très paradoxal parce que certains professeurs et médecins disent que, au contraire, les jeux vidéo aident à la concentration, que le hand spinner aussi, qui était justement pour aider des enfants à se concentrer.
Qu'est-ce que c'est, le hand spinner?
C'est l'espèce d'hélice que tu fais tourner sur les doigts, très à la mode, jouer très à la mode chez les enfants. Il le bloque entre deux doigts, tu fais tourner et après tu le gardes en équilibre et ça continue de tourner. Ça aide à la concentration parce que justement, si tu bouges trop ou si tu fais pas attention.
C'est un truc un peu hypnotique aussi.
Exactement.
Ouais, ça occupe les mains.
Exactement, oui.
Alors là, on peut rentrer dans des détails un peu techniques. Il y a deux sortes de capacités d'attention. Il y a l'attention réactionnelle, c'est-à-dire quelque chose bouge dans mon environnement et je fixe mon attention dessus. Et l'attention décisionnelle, même si ça ne bouge pas, même si ça ne scintille pas, ça ne clignote pas, ça ne bipe pas, je décide de garder mon regard sur la page d'un bouquin. Les jeux vidéo stimulent l'attention réactionnelle, c'est-à-dire ça capte nos gamins parce que ça bouge sans arrêt dans tous les sens. Toutes les deux secondes, il se passe un truc, c'est comme à la télévision. Et donc, ils sont absorbé par ça.
Ah, sauf que non, la télé c'est passif. Le jeu vidéo c'est actif. L'enfant joue et interagit sur ce jeu.
Le principe est le même. Il y a toujours un truc.
Et il réfléchit. Et il réfléchit et il a une tactique.
Les programmes télé qui sont interactifs, moi je regarde ou je chante en même temps. Et... c'est sur France 2.
Alors, regarde dans quel état cette nuit.
Mais par contre, je suis au top. Hein.
Toutes les capacités d'attention descendantes, décisionnelles, où on se dit même si ça ne court pas dans tous les sens, je pose mon attention là-dessus, même si ce n'est pas sexy, même si c'est pas électrique, même si c'est pas fluorescent, celles-ci sont un peu en déshérence aujourd'hui. Et c'est ça que nous apprend la méditation tranquillement, et si on le désire, hein, c'est pas une obligation, mais pour les gamins, ça leur fait quand même.
Et en pleine conscience, on n'est pas hypnotisé, on est seul et on décide du moment et de la durée de cette méditation.
Et la radio, c'est réactionnel ou décisionnel?
Alors, ça dépend des émissions. Il y a des émissions qui se déroulent dans la continuité, sans interruption systématique, sans jingle dans tous les sens. Donc là, on apprend aux gens à maintenir leur attention centrée sur quelque chose qui n'est pas forcément captivant. L'idée, c'est que plus vous êtes dans la paresse attentionnelle, c'est-à-dire vous laissez les stimulations venir à vous, ça flash, ça scintille, etc., moins vous développez, évidemment.
Eh bien, ce n'est pas le cas de cette émission.
Sur France Inter.
Et voilà, on continue tout de suite avec Leïla. Leïla.
Désolée.
Comment j'ai réveillé le truc.
Là,
je suis désolé, Christophe.
C'était passionnant.
Ça vous stimule, ce
sujet. En plus, j'allais vous demander à quel moment de la journée il est plus opportun de méditer. Parce que moi, j'ai quand même un peu la sensation, même si on va vers du mieux-être, du bien-être, d'être dans une forme de dictat aujourd'hui de la société, à savoir qu'il faut que je me lève tôt, que je médite, que j'écrive sur un calepin. Ça, c'est la grande tendance.
Objectifs. Fais ta gym.
Après, je vais faire ma gym.
Il n'y a pas un moment où tu prends une douche ?
Bah si, justement. Et du coup, c'est tout d'un coup une sorte d'emploi du temps qui fait que si je veux pouvoir tenir ça dans ma vie, il faut que je sois couché à 22h, sans quoi je tiens pas au bout de deux semaines, en fait, cette gymnastique-là. Et je me dis qu'il y a quand même une forme de dictat aujourd'hui, un peu, dans ce côté, il faut aller mieux, il faut être dans une forme de contrôle, parce que méditer, c'est aussi une façon de se dire, je vais mieux réagir après, donc je vais être mieux, oui, être en meilleure mesure de me tenir, en fait. Et je trouve qu'il y a une forme de...
C'est vrai qu'on a un cahier des charges actuellement, les individus modernes, être des bons citoyens, des bons parents, être heureux, avoir l'estime de soi, méditer. Donc ça fait beaucoup de choses, je suis d'accord avec vous. Bon, quant à dire que c'est une dictature, je trouve qu'il y a d'autres dictatures bien pires.
Oui, hein, ça c'est sûr.
C'est une fille assez légère dans le propos.
Bien sûr que la société de consommation, c'est une autre forme de dictature, mais celle-ci sur le côté, on va bien. On mange des graines, on est en bonne santé, on est bienveillant. Je sais bien. Oui, mais je trouve qu'on n'est pas tous capables de... moi, je me retrouve en échec souvent face à ça.
C'est pas la nourriture, le yoga ou la méditation qui va te donner une pression supplémentaire. Ça t'aide au contraire à éviter la pression.
Sauf que comme c'est sociétal et comme on te dit que c'est un peu la nouvelle façon de fonctionner...
Mais tout va dans le même sens, que ce soit le yoga, le bio ou la méditation. Je pense, Christophe André, que tout, que ce soit la gym, le mode d'alimentation...
C'est ça, ce qu'on appelle le soin de soi. Alors, Vous savez, en fait, le point de départ de tout ça, moi, j'ai rarement vu des personnes venir à la méditation juste par curiosité.
Ouais,
en général, on y vient parce qu'on souffre, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que vraiment, il y a des détresses en nous que les autres ne perçoivent pas forcément, qu'il faut régler.
C'est la scène que vous racontez avec lever la main ceux qui viennent par curiosité.
C'est ça.
Ou qui
Est-ce
ont
que
besoin.
Dans cette. Ça. Oui, ça, j'avais adoré. C'était, je ne sais plus quelle réunion.
C'est dans votre livre. Vous devriez le lire, il est pas mal. Hein.
Une collègue demande au public, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais souffert et qui ne porte pas des souffrances en lui actuellement. Levez la main. Évidemment, dans ces cas-là, personne ne peut sincèrement lever la main. Et la méditation...
Il y a un deuxième volet.
Oui.
Ensuite, est-ce que personne ne veut...
Oui, a envie. Et voilà. Qui a envie de garder ses souffrances intactes, qui se régale de souffrir, qui veut continuer ? Évidemment, personne ne
veut. Oui, évidemment, poser comme ça.
Oui. Oui. Non, mais il faut rappeler parfois des choses de bon sens et d'évidence. Oui. Alors, évidemment que manger tous les jours, aller aux toilettes tous les jours, se brosser les dents tous les jours, s'habiller tous les jours, dormir tous les jours, ce sont aussi des contraintes. Donc...
Dans cette phrase, c'est glissé un intrus, Daniel Morin, pour toi, se laver les dents tous les jours, tu vois. Non, il y avait un piège.
Vous n'y arriverez pas.
Ah, j'ai pas compris, mais bon, je continue ou j'arrête tout.
C'est en rapport avec son hygiène buccale.
Non, mais en tout cas, pour revenir au tout début de ce que vous disiez, c'est très important. Comment on fait pour méditer concrètement au quotidien ? Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a d'abord, effectivement, l'idéal, mais c'est contraignant, se lever 5 minutes avant, s'asseoir, les yeux fermés, et puis, voilà, prendre conscience de ce qui nous habite, le corps, l'esprit, tout ça. OK, bon. Il y a des matins, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas grave. Deuxième espace, tous les moments dont on parlait tout à l'heure, l'attente. Vous attendez chez votre dentiste. Vous attendez parce que vous avez besoin d'appeler la sécu. Vous êtes sur les disques, là, etc., etc.
Mais là, on est tellement exaspéré que pour méditer, il faut être fort.
Oui, mais c'est intéressant parce que là, ces temps d'attente, vous pouvez soit les consacrer à surfer sur vos écrans ou à vous énerver. C'est une occupation à laquelle ça donne beaucoup d'entre nous, s'énerver. Soit vous dites, bon, je suis coincé, je n'ai pas le choix. Donc ça ne consomme pas de temps supplémentaire. Ouais. Et puis la troisième chose...
Sauf que l'attente au téléphone, souvent, est à 0,80 centimes d'euros la minute. Donc,
Ça énerve.
C'est le service après-vente. C'est le prix du service après-vente.
Restons-en à l'attente chez le
Sauf que, oui, non, sauf que, non, non. Mais...
Et là, ça fout la trouille.
La troisième option pour méditer, c'est ce qu'on appelle les activités en pleine conscience. Vous préparez votre bœuf en daube, vous pelez les carottes, et au lieu de peler les carottes en pensant à votre réunion de la veille ou du lendemain, en disant, bien, c'est toujours moi qui pèle les carottes, j'en ai marre, ça m'énerve, ou en faisant je ne sais quel autre calcul, vous dites, bon, plonge-toi dans cette carotte, regarde sa couleur, renifle son odeur, écoute le scratch,
ça, tu fais
scratch de l'économe. C'est ce que préconisent les moines zen. Quand vous rentrez dans un monastère zen, on vous apprend à balayer la cour, à nettoyer, à faire la poussière, à faire la cuisine.
Tout ce qui est manuel, c'est génial en fait pour ça.
Tu vois, les là, c'est pas dégradant.
On déconnecte la vaisselle, par exemple. Moi, j'adore faire la vaisselle.
C'est ça. Et c'est non seulement génial, mais indispensable. On s'aperçoit que nous vivons dans une société qui cérébralise beaucoup trop et que réhabiliter le travail manuel est une bonne idée.
Christophe André signe 3 minutes à méditer, c'est aux éditions Iconoclaste, et puis il y a des conférences dont on va parler tout à l'heure, ça sera au mois d'octobre, des conférences qui seront basées sur le bien vivre ensemble, animées par Ali Rebehi, et qui va nous rejoindre pour nous en parler, je crois que c'est une première même, il va y avoir et à la radio et au cinéma, la diffusion de ces conférences. Mais d'abord voici l'humeur d'Alison Wheeler.
Oh oui. Christophe, je vous aime bien, Christophe, parce que vous êtes un peu comme une bonne tisane. Vous relaxez les gens en 3 minutes, il faut juste que ça infuse. Merci, car vous faites du bien aux Français qui sont un peu stressés en ce moment, un peu comme s'ils avaient en permanence un slip avec de la harissa dedans. Personnellement, j'arrive pas à méditer parce que je suis beaucoup trop stressée. Faut dire que vivre dans une grande ville comme Paris, c'est dur. Comme tout le monde, j'arrêtais pas de me faire avoir dans la rue. Par exemple, si on me demande « Hey, t'as pas 3 minutes pour la fin dans le monde ?» Moi, je réponds bien sûr et bim, en 200 mètres, j'ai déjà 3 prélèvements sur mon compte d'Action contre la faim, WWF et l'Association des chauffeurs de bus non-voyants. Et en bonus, comme je me rends jamais compte de rien, j'ai été élue produit de l'année par les frotteurs de la ligne 9. Bien sûr, depuis, je me suis endurcie, j'avais pas le choix. En 3 ans, j'ai beaucoup changé. Et je suis devenue un genre de mini Etchebest en jean slim. C'est simple, avant je souriais aux gens dans la rue, maintenant je suis devenue irascible. Si on m'adresse la parole, je me transforme en Finkielkraut.
Taisez-vous.
Et je suis pas la seule. J'ai remarqué que les nanas qui vivent à Paris, elles sont tellement en stress qu'elles ont la ride du lion à 11 ans à peine. Et c'est pour ça que la méditation cartonne. On a besoin d'elle. Les gens sont tellement vénères à Paris. Bientôt, c'est les pitbulls qui vont payer pour aller voir des combats de Parisiens. Grâce à vous, de nombreux Français se mettent à une nouvelle forme de méditation que j'ai un peu de mal à comprendre. La méditation sur les réseaux sociaux. On en a tous une dans nos contacts, cette personne qui te partage, alors que t'as rien demandé, une pensée positive qui n'a de sens que si t'es atteint d'un cancer ou d'une maladie incurable. Un truc du genre, guérir c'est toucher avec de l'amour ce qui a été touché avec de la peur. Citation qui légende une photo en sépia où la concernée se suce le doigt en maillot de bain dans une piscine au bord de la plage à Bali. Hashtag love yourself, hashtag blessed, amazing friends. Mais pourquoi tu postes en anglais, connasse, t'es née dans le Cantal? Excusez-moi, j'ai beau essayer, mais la méditation, ça prend pas sur moi. Enfin, si le dimanche soir, j'arrive à fixer mon mur blanc avec 5 grammes d'alcool dans le sang, j'appelle ça une méditation alcoolique. Hashtag detox, love my life. Attendez, moi aussi je rêve d'un monde où les gens s'aiment, sont bienveillants, comme dans un épisode d'Arnold et Willy. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Drummond, il a voté Trump et il veut plus d'immigrés chez lui pour regarder Fox News pépère. Et puis c'est quoi cette dictature de la bienveillance? Comment ça? Si tu fais le bien autour de toi, tu te sentiras mieux? Je suis désolée, mais quand vous voyez comment on finit Jésus, Benoît Hamon ou le père de Simba, moi j'y réfléchis à deux fois. La bienveillance, déjà, ça commence par demander à Mathieu Ricard de mettre un slip sous sa toge, par exemple. La bienveillance au quotidien ne paie pas, ou très mal. Parce que moi, j'ai déjà essayé une fois en ramenant mon chauffeur VTC chez lui. Bah, il m'a mis qu'une étoile, ce gros bâtard. Non, moi, je suis d'accord avec vous, c'est bien de vouloir le bien de tous. Enfin, sauf Kim Jong-un, Daesh, les néo-nazis, les ex-nazis, les couples qui prennent l'avion avec un bébé, ma voisine du dessus, tous mes ex, c'est eux qui te facturent 300 euros pour une ouverture de porte, Materazzi, les paparazzi qui ont tué les Didi, Imagineco qui me dit que c'est le moment d'avoir des gosses parce que dans 5 ans, mes ovaires, ce sera du Figatelli. Non, je suis désolée, faut vous mettre d'accord parce qu'il y a plein d'endroits où tu ne peux pas prôner la bienveillance. En voiture, par exemple, on ne peut pas être bienveillant sur un rond-point, c'est sans fin. Au travail non plus, ça n'a pas de sens. T'imagines les gens bienveillants dans l'ascenseur qui se dénoncent avant même de péter? Tu peux perdre ton travail, Nagui, c'est hyper dangereux. À la guerre non plus, la bienveillance, ça marche pas. Non, toi, tire. Non, toi. Non, toi. Bon, allez, à trois, on tire. Et puis, je vais vous dire, les gens qui aiment tout le monde, moi, je trouve ça louche. C'est généralement l'effet produit par la MDMA. Alors, ça va, les drogués. Hein. On commence une fois pour voir ce que ça fait et on termine comme Patrice Evra à faire des bienveillances tape avec des SDF. Non, je trouve vraiment que c'est plus dur que ça ne paraît d'être bienveillant. Mais si tout le monde y met du sien, on va finir par être bienveillant. Et parce que personne dans le monde ne marche du même pas. Putain, vous m'avez contaminé, Christophe, c'est pas vrai. Et même si la Terre est ronde, on ne se rencontre pas. Ah, oh, j'ai envie d'aimer mon prochain, c'est pas vrai. Vous êtes trop fort.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Mais au-delà de l'humour et de l'intelligence d'Alison Wheeler, il y a évidemment, c'est ça son intelligence et sa force, un fond de vérité. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent réagir en disant, c'est quoi cette dictature de la bienveillance, cette dictature du bien-être, du bio, du propre, du éviter de faire ci, faire ça. On tombe dans un autre excès. C'est ceux qui dénoncent les excès, le surconsumérisme dont vous parliez tout à l'heure, tombent dans l'excès de dire maintenant, il faut aller vers la bienveillance, le bio, et ça devient un diktat. C'est vrai?
Oui, on peut y tomber, ça peut devenir un diktat, mais globalement, l'idée, c'est quand même pas d'imposer ces histoires-là à tout le monde. L'idée, c'est de dire...
Non, mais ça peut faire culpabiliser ceux qui ne le font pas en disant « je ne mange pas bio, je ne médite pas, donc je m'esquinte, je m'abîme, je fais du mal à mon prochain et je suis dans le faux ».
Oui, oui, toute action a ses inconvénients et donc la seule façon de ne susciter aucune critique, c'est de ne pas bouger, de se taire, de rien faire. Bon, dès qu'on bouge un petit peu, mais ceci dit, c'est vrai que la bienveillance, donc qui est ce regard porté sur autrui, qui fait crédit à autrui, qui dit « je préfère voir d'abord les bons côtés chez l'autre », c'est une position par défaut, comme disent les informaticiens. A priori, quand je rencontre quelqu'un, ben, je fais l'effort de me dire « il a des bons côtés ».
On est positif. Ouais.
Voilà. Bon. Et puis, je m'ajuste.
Jusqu'à des limites.
Je m'ajuste parce que la bienveillance, c'est une qualité, c'est une vertu, mais elle ne suffit pas à construire une vie humaine adaptée, efficace, etc. On peut être bienveillant, une fois de plus, et affirmer, critique, ne pas se laisser faire. Bon. Alors après, est-ce qu'il y en a trop? Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire... Vous savez, il y a des forces antagonistes dans toute société humaine. Il y a les forces de la bienveillance, au fond, où la plupart des humains, quand même, quand ils se réveillent le matin, préfèrent rencontrer dans leur journée des gens sympas, ouverts, chaleureux, que des malotrus agressifs. En tout cas, c'est mon cas et je crois que c'est le cas de la plupart des gens. Personne ne se réveille en se disant « pourvu que je me fasse engueuler, pourvu que je me fasse crier dessus, pourvu qu'on marche
bon, on sait que ça va arriver vers les 11h.
Donc, a priori, chacun de nous préfère... Deuxième point, et après je vous rends la parole.
Je ne vous accuse de rien, mais...
Je défends la cause de la bienveillance, c'est pas la mienne. Ça m'est égal, moi, les critiques qu'on peut me faire, mais cette notion de bienveillance est importante. Que chacun de nous regarde ce qui se passe les jours où il est de bonne humeur et les jours où il est de mauvaise humeur. Mmh. Quand on est malveillant, quand on a du mal à être bienveillant, c'est en général qu'on n'est pas en super forme dans sa tête, qu'on a des ennuis, qu'il y a des choses qui nous tourmentent, qu'il y a des points qu'on n'a pas réglés. Il me semble...
Et on récolte les ondes qu'on dégage, en fait.
Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que l'absence de bienveillance n'est pas forcément le signe qu'on est au mieux de notre nature humaine. Je pense qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on préfère le bonheur au malheur, qui fait qu'on préfère la bienveillance à la malveillance, qui fait qu'on préfère les sourires au rictus. Et donc, c'est juste ça, le discours. C'est dire, ça fait qu'on se sent mieux, on rend les autres mieux, la société est un peu plus respirable, et puis voilà.
On va parler tout à l'heure de ces conférences, mais en attendant, on va voir comment la musique aussi et vos goûts musicaux ont eu une place dans votre vie, dans la bande originale de votre vie, Christophe André. Vous êtes psychiatre, mais vous écoutez quand même de la musique, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que le silence dans la méditation. Dans les années 80, vous écoutez par exemple Marvin Gaye.
Oui.
Passait quoi à ce moment-là dans sa vie, Leïla ?
Eh bien, à cette époque-là, dans les années 80, très étonnamment, vous soutenez votre thèse de doctorat, vous êtes à Toulouse, et quand vous commencez à travailler après votre internat, on va dire, vous menez une vie qui semble diamétralement opposée à la personne que je vois face à moi. Vous parlez d'une vie un peu de débauche, d'une certaine façon, d'un médecin boursouflé de plaisir.
Je crois que
l'expression que était...
Tout ça en écoutant Sexual Healing.
On vous écoute maintenant, Christophe.
En fait, vous n'êtes pas zen en ce moment, vous êtes crevé. C'est votre vie de débauche qui vous est appuyée.
J'étais un jeune médecin et j'aimais bien la vie, quoi. J'aimais bien vivre à 100 à l'heure.
Les belles voitures, les belles femmes.
Ouais. Mais ça me paraît assez.
Et maintenant, j'aime les voitures moches.
Non, mais c'est vous qui en parlez aussi dans les interviews avec une forme. Pas de regret, mais quand vous évoquez cette période-là, vous êtes pas là. Vous voyez, vous êtes pas tout à fait heureux de la raconter. J'entends
comme gêné un peu.
Ouais,
un peu.
Je suis étonné, mais comme on l'est tous, je crois, de voir la personne que j'étais, celle que je suis aujourd'hui, et donc l'espèce de transformation, mais douce, sans effort violent, qui s'est produite. Ça, c'est un truc
mais
incroyable.
Mais vous croisez le Christophe André des années 80, vous lui dites quoi ? Tu vis à 200 à l'heure, respire, calme, pose-toi 3 minutes. Voilà, slow down, exactement. Vous demandez de redescendre un tout petit peu ?
Non, même pas, parce que je crois que j'avais besoin. Vous savez, toutes les choses qu'on peut faire dans notre vie, la plupart du temps, c'est un besoin. Il faut qu'on aille toucher les limites, il faut qu'on fasse ces expériences. Et je suis ravi de les avoir fait à cet âge-là, plutôt que d'avoir une espèce de crise vers la cinquantaine qui me pousserait vers les mini-jupes et les voitures de sport. C'est bien de l'avoir fait quand j'avais 20 ans.
Après, c'est pas mal à 50 ans aussi, pourquoi pas ? Mais surtout,
sauf que petit, il faisait le pingouin sur le toit de la voiture.
Exact. Mais tout petit, là, c'était bien avant.
Mais peu importe. Pingouin sur le toit de la voiture.
Ouais, et c'est mon premier souvenir de trahison d'ailleurs. Je faisais le pingouin avec un autre copain qui m'a dit attends, je vais chercher des drapeaux et il est revenu avec mon père.
Il
m'a passé une sacrée avoinée. Oui, c'était le toit de sa voiture et on était en train de faire des grands creux dedans, donc ça rigolait pas.
Il y a quand même un événement très triste qui intervient aussi dans ces années 80 là, qui fait aussi, je pense, que vous prenez une autre direction dans votre vie.
Oui, ça c'est un grand choc, mais là aussi je pense que ça n'est pas propre à mon existence. J'ai perdu mon meilleur ami, vraiment qui était comme un frère pour moi, dans un accident de moto, donc il est mort dans mes bras. Évidemment, là, ça a été un électrochoc considérable. Je suis parti m'enfermer dans un monastère pendant 15 jours. C'est là que j'ai découvert, d'ailleurs, mes premières sensations liées à la méditation, à la contemplation. C'était des bénédictins qui m'ont très bien accueilli. Ils ont compris que j'étais vraiment pas très bien dans ma tête. Et ils m'ont remis d'aplomb, tranquillement, sans faire de prosélytisme ou d'endoctrinement. Et là, oui, ça a été une cassure, comme il y a des cassures dans nos vies. Et à partir de là, tout a changé. Tout ce qui m'apparaissait attirant et joyeux auparavant, je voyais mieux le côté un peu vain, superficiel, et surtout je voyais mieux qu'il était temps de clore ce chapitre. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse une fois de plus, des erreurs, des bêtises, des excès que nous devons traverser pour nous en libérer.
En 1992,
trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir.
Yves Montand avec ses trois petites notes de musique en 92, vous êtes à Sainte-Anne, enfin du bon côté.
Il n'y a pas de bon côté.
Oui, c'est ça, Nagui, qu'est-ce que c'est que ce jugement?
Le côté où on est payé pour, quoi, voilà, on va dire, voilà, pour être là-bas.
Ben, le côté, j'ai envie d'y être, et pas obligé.
Et là, vous,
psychiatre
vous êtes psychiatre et vous êtes spécialisé dans la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs. Et là, vous avez face à vous une population, j'imagine, en détresse. Et vous faites aussi cette activité-là en entreprise. Vous commencez déjà, à ce moment-là, à aller porter secours à des gens qui n'en peuvent plus.
Au laisser pour compte dans le milieu professionnel. Ouais.
Alors si je peux me permettre de revenir sur le morceau d'Yves Montand, moi j'adore ce morceau, trois petites notes de musique, je sais le jouer à l'accordéon, bon, pas très bien. Et ce que je veux dire, c'est que 92, c'est l'année où j'arrive à Paris, je m'installe à Paris et je tombe évidemment amoureux de Paris, je décide de jouer de l'accordéon, je prends des cours.
Vous portez un béret, une baguette.
Mais ça a été un choc amoureux. Enfin, je suis venu pour rejoindre ma femme aussi, donc il y a eu un double choc amoureux. Mais c'est pour ça, voilà, que j'ai souhaité faire écouter ce petit morceau.
Mais ça reste toujours des musiques douces aussi, hein, dans vos choix.
Ouais, plutôt, c'est vrai.
Un CDC, c'est pas...
Non, mais j'aime bien CDC, mais j'ai pas eu envie de le partager aujourd'hui. Mais pour ce que vous êtes en train de dire, effectivement, à Sainte-Anne, je me suis surspécialisé. Comme j'arrive dans un service universitaire, il n'y a que des surspécialistes. Il y a Madame Dépression, Monsieur Schizophrénie, Madame Génétique de la maladie bipolaire, etc. Et donc moi, j'étais Monsieur, pas tant trouble émotionnel, Monsieur Prévention des troubles émotionnels. Donc je commençais à m'intéresser déjà au fait de travailler en amont, pas attendre que les gens aillent mal, mais de me dire... Où c'est qu'on pourrait les toucher dans leur vie pour qu'ils ne retombent pas sans arrêt dans ces souffrances, d'où l'entreprise, entre autres.
Et quand on parle de burn-out, c'est un terme qui est très très à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que c'est avant la dépression? Est-ce que c'est un état dont non. il faut essayer de voir venir un peu les symptômes pour,
Bah, le burn-out, c'est un état dépressif sévère. Là, c'est trop tard. Hein. Quand
c'est trop tard.
Le diagnostic de burn-out, ce n'est pas avant la dépression. C'est une forme de dépression liée à un épuisement professionnel lorsque vos rythmes professionnels ont fini par vous dévaster et que vous vous êtes fait piéger. Alors, parfois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, les personnes en burn-out ont ceci de très caractéristique que peu à peu, elles commencent à consacrer tout leur temps libre à rattraper ce qu'elles pensent être du retard dans leur boulot. C'est-à-dire, elles rentrent chez elles le soir et au lieu de se dire « punaise, c'est dur, mon boulot, il faut que je récupère, que je me détende, que je vois mes enfants, etc. » Elles en remettent une couche dans le travail en se disant « je dois prendre de l'avance, je dois vérifier. » Et là, si on ne fait rien, ces personnes sont cuites. D'où l'importance de parler de ce concept auprès notamment des médecins du travail, des psychologues du travail, qui repèrent quand même l'espèce de pente glissante, très aggravée évidemment par les conditions de travail qui existent depuis 10-20 ans, où les flux tendus, des managements parfois un peu agressifs de la part de managers, eux-mêmes pressurés, fonds de pension qui exigent des rendements à deux chiffres dans les bénéfices des sociétés, tout ça a créé un système diabolique.
Et oui, la méditation, pour le coup, peut être une façon de voir venir. Quoi.
Et lorsque Christophe André rentre chez lui, il écoute.
Bien sûr,
sans les clous.
C'est tarif jour, tarif nuit, hein, avec
c'était pas dans ma liste, ça.
Non, c'est vrai, mais c'était suggéré par Albert. On avait envie de jeter une oreille.
C'est bien, ça.
Ali Réveillé nous a rejoint. Ali, après avoir
bonjour,
tenu
bonjour,
magistralement Maggie. L'antenne, comme tous les jours, de 10h à 11h. Et ça nous fait du bien, puisque grand bien vous fasse, c'est le rendez-vous qu'il fixe. Ali, il faut expliquer ce qui va se passer, puisque c'est un, quand je dis c'est un événement, c'est pas simplement du marketing en disant c'est un événement. Je crois que ça n'a pas été fait, ou pas souvent fait, en tout cas, trois conférences autour du bien vivre ensemble.
Oui, trois conférences. Alors, première conférence, le 16 octobre prochain, à 20h, au Studio 104, c'est déjà complet, complet en 3 ou 4 jours, donc ça veut dire que ça répondait quand même à un besoin, à une envie très forte des auditeurs. Donc,
300 euros la place.
Hein, non, c'est pas vrai, c'est 15 euros.
C'est complet, sauf que c'est distribué...
dans 50 cinémas.
Projeté dans des cinémas.
50 cinémas, à Agen, à Blois, à Bordeaux, partout en France. 50 cinémas qui nous accueillent. Donc, c'est une conférence consacrée aux bienfaits de la bienveillance, on l'a évoqué là ce matin. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer notamment sur des expériences personnelles et professionnelles de Christophe, de s'appuyer sur des œuvres d'art, sur des extraits de films, de s'appuyer également sur l'expérience de Catherine Guéguin, qui est une grande pédiatre qui promeut la bienveillance à l'école. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des outils pour être beaucoup plus bienveillant dans notre vie de tous les jours, donc à l'école, en entreprise, dans sa vie intime, dans sa vie personnelle. Voilà, bienveillance. C'est vrai que je vous entends, moi je suis un peu partagé, je suis à la fois un peu du côté de Christophe André, puis un peu du côté de Daniel Morey ou de Leïla ou de vous, Nagui. Il me semble que dans la société, les sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire des sociétés qu'on appelle liquides, des sociétés où il y a une impermanence à la fois du lien affectif, impermanence du lien amoureux, amical, impermanence des liens professionnels, une société liquide sans farnibalise. Il me semble que des psychologues, des psychiatres, des philosophes aident à nous donner du sens. Et le travail de Christophe André depuis de nombreuses années, à travers la méditation et la bienveillance, eh ben, ça nous permet de donner du sens, d'avoir des sortes de phares et de balises pour mieux vivre nos vies qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus heurtées. Il m'a semblé, avec Karine Talbot qui a initié ces conférences, de s'appuyer sur l'expertise de Christophe André.
Est-ce que le piège, en fait, de dire on est dans une société de consommation, de surconsommation, où on est juste des porte-monnaies qui se baladent et qui doivent acheter tel et tel truc, et en disant maintenant il faut donner un sens à votre vie, d'en faire, entre guillemets, des livres, des conférences et donc un mode de consommation, n'est pas tombé dans le piège aussi de ceux qui vont dire, bah oui, mais vous allez exploiter commercialement.
Est-ce qu'on fait pas du business
avec la bienveillance.
Ça risque pas de devenir une méditation mania.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Un business, je sais pas. Enfin, Mais
ça représente dans le monde un business, Ali. Quand tu vois des grandes firmes qui lèvent 30 millions de dollars pour rejoindre une application sur, je me souviens plus du nom, c'est une application américaine pour initier les gens à la méditation. Forcément, il y a une donnée mercantile qui fait que avant, il y a 30 ans, on prenait les gens qui parlaient de méditation pour des fous, des huluberlus, enfin voilà, on va le dire comme ça. Et maintenant,
donc, tu mâches pas tes mots, toi.
Non, mais maintenant.
Toi, tu sais inviter.
Mais c'est important de le dire.
Et maintenant, comme des hommes d'affaires.
Moi, c'est une dimension qui, moi, m'est assez étrangère, très honnêtement. On est dans une radio de service public. Grand bien vous fasse, c'est une émission, effectivement, qui promeut certaines valeurs, et notamment la bienveillance. Moi, je me sens assez étranger à ça.
On ne vous accuse pas. Est-ce que c'est finalement, il n'y a pas le piège de la société de consommation en disant « on va vous donner un sens autre ». Que le consumérisme,
certainement si on est dans une visée un peu de performance.
Ouais.
Effectivement, s'il y a une sorte de contrainte, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Leïla, très bien, s'il y a cette contrainte, cette obsession, effectivement, d'être bienveillant, etc., effectivement, c'est pas du tout opératoire. Mm-hmm.
Ouais, donc là, en gros, façon de contenu.
Et vous, Christophe André,
vous
en dites quoi de ceux qui vous reprochent finalement peut-être une forme de, entre guillemets, business?
Ouais. Je crois que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, effectivement, causer dans le poste, publier des bouquins, être passé à la télévision, c'est peut-être une façon simplificatrice de parler de méditation, de bienveillance. Mais quoi d'autre ? quoi d'autre ? C'est-à-dire, si on ne fait pas ce travail d'entrisme et de présence dans des médias qui, effectivement, fonctionnent avec l'argent, avec l'apparence, etc., nos voix vont se perdre dans le désert. Ou alors, il faut être beaucoup plus fort que je ne suis. Donc, moi, je pense que c'est aussi une façon de faire, de viraliser nos messages.
Oui, on n'est pas obligé d'être payé, à la limite. On pourrait aussi se dire, par exemple...
Il faut bouffer. Il faut qu'il mange, qu'il soit
bouffé. Non, mais j'entends. Non, mais ça veut dire que du coup...
de bouffer des graines, mais alors, il y a besoin de manger un steak.
Très bien.
Et puis le bio coûte cher.
Très bien. Donc, ça veut dire qu'on en fait une activité dont on tire une rétribution. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on pourrait aussi envisager que...
C'est le cas de tout, pour tout le monde, c'est le travail.
Oui, mais on pourrait envisager que Christophe André, qui exerce à Sainte-Anne...
Dans un hôpital public.
Dans un hôpital public, voilà, pourrait aussi... D'ailleurs, ce que vous avez fait, sur France Culture, finalement, vos exercices de méditation, ils étaient gratuits.
Oui.
Ils étaient gratuits, donc finalement, vous dispensiez de la bienveillance et de la méditation de façon gratuite.
Ben, on est toujours dans cette espèce de cocktail où effectivement, il y a des tas de choses qu'on fait gratuitement, et puis d'autres où on se dit, il va falloir quand même que je puisse payer mon loyer.
Ce que Leïla veut dire, c'est quand même, aujourd'hui, pour venir, vous avez demandé 15 000 euros pour venir à cette émission.
C'est exceptionnel.
Je veux juste qu'on revienne sur la notion de méditation laïque. Le terme, vous l'avez employé tout à l'heure, et la laïcité est l'un des nerfs de beaucoup de choses dans notre éducation, dans notre société. Est-ce que ça serait pas une solution finalement aussi d'éduquer les enfants à la méditation laïque pour les sortir d'une emprise religieuse extrême et dangereuse?
Oui, alors toutes les religions n'ont pas quand même des effets dévastateurs, extrêmes et dangereux.
Ça dépend du moment historique où ça s'est passé.
Ouais, puis ça dépend de l'état de vulnérabilité de la personne qui s'engage dans la religion.
C'est pas une question de religion, en fait.
Oui, je pense qu'il y a un mauvais cocktail entre fragilité personnelle et endoctrinement extérieur, qu'il soit religieux, politique, etc. Bon. Mais sur l'intérêt, effectivement, d'utiliser ces pratiques de méditation laïque, au fond, au tout début, vous savez, quand on a introduit la méditation à Sainte-Anne, on n'utilisait pas le mot méditation parce que c'est un mot qui fait fantasmer, qui fait penser à religion, se raser la tête, les bâtonnets d'encens, etc. Et donc on disait on fait de l'entraînement attentionnel à nos patients. Et Mathieu Ricard, quand il parle de méditation, il dit mais la méditation c'est pas compliqué, c'est un entraînement de l'esprit. On entraîne son esprit au recul, à la bienveillance, à la stabilité émotionnelle, tout comme quand on fait un footing, on entraîne son corps à développer plus de capacités musculaires, respiratoires, etc. C'est rien d'autre que ça. C'est se dire, mon cerveau, c'est un chouette truc, mais je peux peut-être m'entraîner à aller le faire travailler dans des zones...
Ça veut dire qu'il faut s'occuper de soi, que ce soit physiquement, mentalement...
Il y a un minimum. Il y a un ticket minimum. C'est-à-dire, si je ne prends pas un tout petit peu soin de moi, j'aurai du mal quand même à prendre soin des autres, à fonctionner correctement. C'est ça aussi, c'est pour ça que ça n'est pas qu'un égoïsme, toutes ces approches de soi.
C'est
de
comme
soi.
Dans l'avion, placer le masque à oxygène sur votre bouche avant de le mettre à un autre.
Exactement, c'est une image pédagogique qu'on apprend souvent à nos patients.
C'est le faire quand on est à côté d'un enfant. Il faut d'abord s'équiper du masque avant d'équiper l'enfant à bord d'un avion qui a un problème. Cycle de 3 conférences donc autour du bien vivre ensemble. La première a lieu le lundi 16 octobre,
16 octobre à 20h.
À 20h, présenté par Ali Rebeilly et Christophe André. Merci Ali d'être venu à ce micro. Et vous retrouvez, on t'écoute tous les jours.
Tous les jours.
Du lundi au vendredi, de 10h à 11h.
Égal, mais il est là toujours.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure à 12h10. Mais Tanguy, aujourd'hui, vous allez nous parler de couscous bio, j'espère.
Mais oui, parce que vous le savez, le Front National se déchire autour du couscous. Il y a les pro-couscous, les anti-couscous, mais aussi ceux qui sont neutres et préfèrent la paella. Alors en cause, Florian Philippot, accusé d'avoir mangé du couscous plutôt qu'une potée au chou, qui certes donne des gaz, mais est bien française. C'est le couscous gate, Nagui.
Le couscous gate. Oui, d'accord. Okay. Ouais, c'est tout à l'heure. C'est Tanguy Pastureau. D'abord, voici une cascade de questions pour Christophe André, notre psychiatre invité. Avec des questions courtes et des réponses courtes et douces, Leïla.
Christophe André, l'endroit le plus beau où vous avez déjà eu l'occasion de méditer?
À part ici, évidemment.
L'Aubrac, le plateau de l'Aubrac.
Il y a de la bonne viande là-bas.
Daniel Morin.
Christophe André, est-ce qu'aujourd'hui la fonte des glaces chagrine le pingouin que vous étiez hier?
Ça me chagrine beaucoup parce que, comme tous les humains, je me demande bien que dans quel état on va laisser la terre à nos enfants. Ouais.
Alison Bella.
Qu'est-ce qui vous stresse?
Globalement, tout ce qui échappe à mon contrôle, potentiellement. Malheureusement, ça fait beaucoup de choses.
Voilà, c'est pareil. Albert Algou.
Dernière baston.
Baston verbal ou physique ?
Physique et verbal.
Alors physique, ça devait être sur un terrain de rugby, vers quand j'ai raccroché, vers 30-35 ans.
Oui, mais ça c'est dans l'esprit.
Par dépit ou...
Bon, non, il faut faire régner un petit peu l'équilibre des nions. Bonjour.
L'équilibre des nions, très bien.
L'équilibre des nions, magnifique.
Qui s'apprendrait notre invité. Il signe 3 minutes à méditer et on se retrouve après les infos de midi, évidemment, pour finir cette bande originale sur Inter. C'est la bande originale avec Léa Kamenou-Gadi.
Bonjour à tous.
Alexandre Miller, oui. Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algout.
Bonjour.
Tanguy Passio.
Bonjour.
Et notre invité, le docteur Christophe André.
Bravo.
Christophe André qui signe 3 minutes à méditer. Alors c'est un livre, oui, c'est aussi un CD où l'on peut l'entendre.
Laissez ce que vous êtes en train de faire. Redressez-vous doucement si vous êtes un peu avachi. Ouvrez les épaules, tenez votre nuque droite, sans raideur. Ne cherchez pas
AVS Media Demo.
Respiration. À respirer de telle ou telle façon.
Ah oui, donc, d'accord. Donc on a, en fait, on a eu un truc promo, et c'est pour ça qu'il y a la voix de la fille qui arrive en plus et qui dit non,
pas bah, d'argent.
Non,
mais
j'ai écouté, j'ai jamais de voix d'une fille. Donc ça, c'est un disque promo. C'est comme un
Nagui
bug.
Nagui est en train de parler à quelqu'un en régie. Ouais, ouais, il ne devient pas fou. Ouais, ouais.
Parce qu'en plus, elle me dit non, je t'assure, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est juste.
C'était la voix de votre femme, Nagui, j'ai reconnu.
Ce qui est fort, c'est que vous donnez ces conseils pendant à peu près 3 minutes chaque fois. Une quarantaine de conseils. Ces conseils, on peut les suivre, soit les lire à l'écrit, soit les écouter. C'est vraiment le livre audio. Et que ce soit aussi dans votre livre ou dans le CD, il y a toujours en ouverture, en préambule, une citation de Proust, de Lamartine. Vous appuyez sur des auteurs pour dire aussi à quel point il a toujours été... Cette idée de méditation a toujours été présente, en tout cas.
Oui, chez Camus, par exemple. Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite, mais d'être conscient.
Ouais, ça, c'est Camus. C'est magnifique.
Il y en a une qui est pas rassurée, c'est celle d'Oscar Wilde sur la tentation, comme quoi on peut y céder. Ouais.
Inutile de résister.
Ouais, ouais. Mais du coup, j'étais bien.
L'idée, elle est contenue dans cette phrase de Freud. Freud avait un jour écrit « Tout ce que j'ai découvert, un poète l'avait découvert avant moi ». Bon, Freud était un peu prétentieux.
Et puis quelques autres psychiatres avant lui, voilà, qu'il a aussi évité de citer.
Aussi.
Hein, il faut le dire.
Mais effectivement, l'idée, c'est que les littéraires, les poètes, les musiciens, les artistes en général, les romanciers, évidemment, sont les meilleurs psychologues. Et donc, souvent, ils disent plus élégamment ce que nous arrivons à dire, un peu lourdement, de manière pédagogique. C'est pour ça que chaque chapitre s'ouvre sur une exergue, une citation inspirante.
Est-ce que vraiment 3 minutes par jour suffisent pour réguler et se contrôler, on va dire, dans sa relation avec la société, ou il en faut beaucoup plus?
Ça suffit pour découvrir à quoi ressemble la méditation. L'idée de la méditation, c'est que beaucoup de gens en ont peur, soit pour les aspects religieux dont on parlait, soit parce qu'ils ont l'impression que ça va leur prendre un temps fou et qu'il va falloir changer de vie. L'idée du bouquin, c'était de dire, attendez, faites 3 minutes par-ci, par-là, regardez quel goût ça a pour vous, si ça a du sens, et puis si ça n'en a pas, lâchez le truc, mais si ça en a, à ce moment-là, allez un petit peu plus loin.
Et vous avez suivi d'ailleurs le rythme de nos vies, c'est-à-dire, on parle tout à l'heure de bienveillance, la manière de respirer, il vaut mieux qu'on le fasse tout le temps,
manger
dormir.
Oui. Sourire, parler,
manger. Manger, la phrase, c'est de nous distinguer des animaux qui se repaissent. Et en fait, il n'y a que l'homme qui, lui, sait...
En tout cas, qui peut, sans doute, plus facilement manger en pleine conscience au lieu de se goinfrer. Mm-hmm. C'est-à-dire savourer chaque bouchée, sentir l'aliment dans sa bouche, dans son corps. Du coup, on mange mieux, on mange moins, on savoure davantage. On n'a que des choses à gagner.
Ouais.
Et comment vous faites pour méditer sans penser que vous êtes en train de méditer? Parce qu'en fait, moi, j'ai essayé...
Ou sans s'endormir, sans être hypnotisé, c'est ça?
Oui, ouais, ou en tout cas, le côté pleine conscience, parce que moi, je suis là et je me dis, tiens, mais je suis en train de méditer, mais je médite à quoi? Et je me dis, alors là, ça fait combien de temps? Il va falloir que je médite comme ça. Alors du coup, je médite à méditer.
Mais en général, t'es une fille compliquée.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est bête. L'idée, c'est de renoncer à faire taire tout ce genre de petites voix qui s'allument, de petits constats, jugements, observations. Se dire, continue avec ça. Oui, t'es en train de t'observer, en train de méditer, pas grave. Reste dans le souffle, reste dans le corps, regarde toutes ces pensées circuler. Notre cerveau n'arrête pas de produire des pensées, des jugements, des images. Donc si on commence à vouloir tout contrôler, tout arrêter, tout bloquer...
On n'y arrive pas.
Je l'ai fait l'autre jour à la maison, je me suis mis dans la position que vous recommandez, donc les mains posées sur les cuisses, bien droites, et les épaules un peu ouvertes, et à prendre le temps de respirer. Il y a ma femme qui passe, fait, ça va? C'est-à-dire que d'un coup, c'était très inquiet. Très inquiète. Ça fait deux minutes qu'il ne bouge pas.
Vous avez trouvé la solution, vous faites les exercices, mais vous demandez à votre assistant de faire.
Je vais faire par quelqu'un, je n'ai pas le temps de faire. Médite pour moi, tu ne me dis pas quoi. 3 minutes à méditer, c'est le conseil que vous donne Christophe André. Voici l'heure de retrouver Tanguy Pastureau.
Ah oui,
salaud.
Et Tanguy, quoi, ça va pas, non?
J'ai une rime.
Et Tanguy, c'est la guerre au Front National.
Oui, l'ambiance y est aussi tendue que dans une cérémonie de la circoncision où le type censé opérer viendrait avec une tronçonneuse. Tout est parti d'un tweet où Florian Philippot, chroniqueur pour BFM TV, CNews, LCI, France Info, RTL, Europe 1, il a pris un chat pour pouvoir passer sur la chaîne Animaux, apparaît à Strasbourg dans un restaurant de couscous. On le voit heureux, il sourit, défoncé au boulawan, tandis qu'un pote lui fait des oreilles de lapin avec deux merguez. On sent que le patron déboule et crie « Allez les gus, on se la joue comme à la Mamounia de Marrakech quand Frédéric Mitterrand déboule. On fait la danse de Bébert le dromadaire tout nu et épilé. Philippot et ses potes pourraient se lancer dans une chenille. Seulement Philippot, c'est la gauche du FN. C'est un souverainiste fan de De Gaulle. Donc il est à l'extrême droite ce que le cake au bromure est à un samedi soir réussi. Résultat, tous les FN qu'il déteste se mettent à écrire en commentaire sous la photo « Salaud, du couscous, pourquoi pas une bricoton, va te faire voir chez Cheb Mamie, espèce de collabo. » C'est-à-dire que dans l'esprit de certains, le couscous est resté le plat des étrangers. Pour Garbite, c'est un échec. Ça veut dire qu'ils nous ont balancé leur pub à la con sur 40 ans pour rien. Alors Pierre Chenet, cadre FN, reproche ainsi à Philippot de ne pas avoir pris à Strasbourg de la choucroute. Hein, pour lui, dans une ville, on se nourrit de la spécialité locale et c'est tout. À Montélimar, on fait des repas entiers de nougat et en Guadeloupe, on se doit de dîner de 2 litres de bois bandé par tête. Hein, c'est ce que fait Francky Vincent, ça fait 3 décennies qu'il est raide des pieds jusqu'à la tête. Techniquement, c'est le seul macabre qui danse les begins. Bref, au FN, il y a les pro-couscous, les anti-couscous et Philippot est même qualifié d'infiltré. Hein, là, certains FN pensent qu'il est en Irak, dans un camp de Daesh, à gober des hormones pour que sa barbe pousse. Tout ça pour un couscous. Hein, c'est comme de croire, après avoir bouffé une calzone, qu'on est capable de tout faire comme Rocco Siffredi.
Bon, j'imagine que Florian Philippot a contre-attaqué à ce couscous-gate.
Oui, avant-hier sur France Inter, il a dit que le couscous avait en fait été amené en France par les pieds noirs. Hein, en quittant l'Algérie, ils ont juste eu le temps d'emporter le couscous et Enrico Macias. Enrico Macias, c'est celui qui n'a pas de sauce. Mais en fait, cette histoire de couscous, c'est le pois chiche qui cache la semoule. Le vrai fait politique, c'est que Philippot, une partie du FN, veut s'en séparer, comme la femme de Joe Star essaye de le faire avec son mec à la plage à chaque fois qu'il mord un requin. Or, lui, s'accroche à son poste, telle la sangsue à la cuisse de l'hémophile, parce qu'il n'a pas d'autre job. À la télé, il a déjà bossé pour toutes les chaînes sauf Gulli, et à part finir dans The Voice à chanter Pulmarine en espérant que Zadie se retourne, il n'a plus d'espoir. Alors Marine Le Pen lui reproche notamment de vouloir revenir au franc, hein, vous savez, comme avant. Il veut aussi relancer le col pelle à tarte et ressusciter Jacques Chancel afin qu'il prenne votre place, Nagui, puisque dans le monde de Philippot, vous avez 8 ans. Alors que l'électeur de base qui a mis 10 piges à convertir le prix de la chouquette veut rester à l'euro. Et Le Pen se rend compte qu'avec ce genre de couillonnerie, elle n'a aucune chance en 2022 de dire sur le perron de l'Elysée à Macron « Ciao gamin, tu retournes à la crèche Babylou, c'est maman qui prend les commandes ». Alors elle a donc demandé à Philippot, qui gobe du gingembre 24h sur 24 pour tenter d'embaucher à Dorcel TV, de démissionner des Patriotes, son association. C'est une sorte de parti dans le parti, mais avec sa ligne à lui. C'est comme si un communiste disait à Pierre Laurent « Je vais créer une assoce à l'intérieur du PC pour défendre le capitalisme, parce que quand même l'iPhone, il est top, on peut même payer avec chez Fauchon ». Alors bien sûr, Philippot refuse de quitter les Patriotes, donc il va se faire virer. Hein, Marine Le Pen va se séparer de son bras droit. C'est une sorte d'Oscar Pistorius du dessus de la ceinture. Par contre, le FN n'est pas prêt de retrouver un zig capable d'enquiller 12 directs par jour avec la pêche et un teint de pucelle. Philippot, c'était leur Nagui à eux. Et se séparer de son Nagui, quelle boulette, comme diraient les pro-couscous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Vous êtes notre Philippot.
Ouais, c'est ça, c'est là. Je...
Non, mais c'était pour servir le propos, là.
Je vais méditer la vanne pour.
Merci, bravo, Tanguy.
Digérer la comparaison. Au revoir,
physiquement,
Tanguy.
Il y a un truc.
C'était sa dernière.
Oh
Oh non, on l'aime.
Là, bon, ok. Alors, ma dernière. Il faut choisir. On ne peut pas rester les deux là en même temps. Christophe André, 3 minutes à méditer. Il y a 40 exercices. Ça veut dire quoi? C'est un cycle que vous proposez où chacun, justement, prend là où il veut. C'est des apéricubes. On se sert comme on veut à l'heure où on veut.
Oui, oui, c'est des bouquins.
Manger équilibré.
Tu prends des risques.
C'est des bouquins dans lesquels on peut vagabonder. Il n'y a pas d'ordre préétabli en particulier. Oui, oui. C'est comme ça se présente dans notre vie, finalement. On a tout un tas de petites activités dans une journée qu'on n'est pas obligé de hiérarchiser.
Est-ce que le monde de l'entreprise se tourne aussi vers la méditation? Est-ce qu'il y a, parce qu'on sait maintenant qu'il y a carrément des entreprises qui ont des salles de yoga aussi pour permettre à ceux qui travaillent d'éviter justement le burn-out ou de se reconcentrer sur le travail?
Oui, oui, c'est un grand débat d'ailleurs. C'est un grand débat entre ceux qui disent à tout prendre, c'est quand même mieux qu'il y ait des salles de yoga plutôt qu'il n'y en ait pas. Et puis ceux qui disent, oui, c'est une façon quand même de manipuler le truc, d'instrumentaliser. On fait semblant de prendre soin des salariés en leur permettant de méditer, mais par ailleurs, on continue de les pressurer. Donc je crois que la vérité se situe les deux, selon les entreprises. Il y a les entreprises.
C'est très Silicon Valley, American style of life.
Oui, sauf que tu vois que dans les startups, un peu comme ça, où on te met des espaces baby-foot où tu peux venir avec ta lunchbox, etc., qu'en réalité, il y a des contraintes tellement fortes que ce n'est pas vraiment le pays des bisounours.
C'est ça.
Et ça, ça cache souvent, en tout cas, un management un peu violent.
Oui, oui, mais parfois ça relève d'une...
Non, pas de baby-foot, mais justement, on te met ça pour te dire tu vas être heureux, tu vas voir, tu vas être heureux ici, viens travailler.
Si tu ne le mets pas, on va te dire, il n'y a pas de table de ping-pong, il n'y a pas de baby-foot.
Oui, non,
c'est
mais
pas
ce que je veux dire, c'est un peu plus complexe que ça, au sens où il y a quand même une sorte de volonté de montrer extérieurement, d'afficher. Oui. Christophe André, vous en parlerez sans doute mieux que moi, d'afficher qu'il y a une prise en compte du salarié, mais que dans les faits, c'est un peu plus complexe.
Bien sûr, mais une fois de plus, parfois, ça relève d'une démarche sincère, parce que le dirigeant de la boîte est convaincu que la méditation, non seulement limite le stress, mais aussi améliore l'intelligence relationnelle, etc. Donc,
ça peut être une demande aussi des employés,
et puis
d'avoir une salle de gym. Ouais.
Ça sera bien chez France Inter, là.
D'avoir une salle de gym,
ça existe. Je crois qu'il y en a une.
C'est
vrai ?
Oui, il y en a une.
Ça s'appelle la cantine. Il faut de gros efforts.
Non mais bon, enfin, voilà, il faut trouver un juste milieu évidemment dans tout, mais la méditation aussi finit par avoir cette place. Est-ce que vous êtes contacté par des chefs d'entreprise pour enseigner la méditation au sein de leur boîte?
Oui, oui. Enfin, moi je ne suis pas consultant d'entreprise, donc je ne sais pas leur expliquer comment implanter ça, mais il m'arrive de faire des conférences devant des états-majors ou des salariés en leur expliquant. Mais vous savez, l'idée c'est de rassurer, de dire c'est pas du bidon, c'est pas délirant, c'est pas sectaire, c'est vraiment un outil qui peut améliorer notre façon d'être, et donc, entre autres...
Et chacun fait ce qu'il veut.
Ouais, et notre façon de travailler, mais pas que.
La conférence, justement, puisque vous en parlez, ça sera le 16 octobre prochain, à 20h. Elle sera au 104 de la Maison de la Radio, mais également dans une cinquantaine de salles de cinéma partout en France, partenaires de cette opération Bien Vivre Ensemble. Le rêve de Daniel Morin, c'est maintenant.
Oh my God.
Allez, Daniel. Allez, Daniel. Courage. Fais un effort. Allez. Ah putain, j'y arrive pas. Désolé, j'arrive pas à méditer. J'y arrive pas. On peut en faire un drame non plus, hein. Non, je dois vous avouer, mon bon Nagui, que comme vous m'avez appris qu'aujourd'hui notre invité c'était Christophe André, et ça m'a quelque peu turlupiné. Du coup, mon sommeil était perturbé. J'ai fait un rêve qu'en langage technique psychologique on qualifie de chelou sa race. J'étais nu dans un jardin embrumé, assis dans la position du lotus. Je me caillassais vers les miches quand un vieux chinois m'est apparu et m'a dit « Tu viens pour la méditation, mon frère ?» Ce à quoi j'ai répondu « Eh, oh, déjà, je suis pas ton frère, hein, seigneur Taichi, et ensuite, pour attendre que je mette un slip avant de me parler. » Mais la nudité comme le fruit de l'homme en harmonie avec le fruit de l'arbre. Écoute, Mister Compote, je sais pas ce que tu fais là. Hein. Moi, c'est un rêve hyper étrange que je fais. Laisse-moi 2 minutes que je me réveille. Après, tu pourras aller parler aux plantes, aux légumes, aux mulots, si ça te chante. Mais là, fous-moi la paix. Puis, il a mis un doigt dans mon oreille. Bon. Non, c'est bien.
Vous êtes deux à avoir ri. C'est Christophe André et toi, Nagui. Je trouve ça quand même
Je peux continuer avec mon doigt. Il a mis un doigt dans mon oreille et je suis rentré en lévitation.
Hé, hey, mais qu'est-ce que t'as fait, le chinois? Je flotte dans les airs. Je plane. Oh, le trip. Même le cannabis de Leila, il n'est pas aussi fort. Dagon, le dossier. Puis le vieux chinois a retiré son doigt. Je suis retombé au sol. Ça m'a réveillé. Intrigué, j'ai immédiatement été voir mon maître à penser, Jean-Philippe Manœuvre. Bonjour, maître.
Salut, Dany.
Maître, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que j'étais nu dans un jardin et qu'un vieux chinois me mettait un doigt dans l'oreille.
Waouh ! Trop puissant ton dream, mec ! Là, c'est clair. T'es en pleine phase de recherche transcendantale.
Ça veut dire quoi ?
J'en sais rien, mais ça claque trop de dire transcendantale sur France Inter.
Ouais.
Ah bah en tout cas, c'est pas avec Nagui que tu vas avoir des mots de plus de 2 syllabes.
Ouais, c'est pas faux. Bon allez, c'est vous dire quoi, mon rêve, faites un effort.
Bon, bah d'après moi, un vieux chinois qui te met le doigt dans l'oreille, c'est clair.
Ah bon ?
Ça veut dire que t'as les oreilles sales, mec ! Désolé, sorry, sale, mais hyper sale, au point que tu veux même pas y coller ton finger et que tu te demandes à un autre de le faire.
Bah, il a lévitation.
Ça, c'est le shit, mec. Un bon shit, ça veut dire, ça peut te faire léviter grave. Une fois lévité, si le shit est excellent, tu as des alus de malade !
À ce point-là ?
Mais grave ! Une fois à Munich, à la fête de la bière, j'en étais à ma 23e pinte houblon cannabis. Eh ben, je me suis écroulé, mon corps s'est soulevé, et là, il y a Hitler qui m'est apparu.
Hitler, Adolf ?
Yavol ! Hitler en train de jouer un solo de guitare.
Non !
Si ! Il jouait Still Loving You !
D'accord, mais ça n'a rien à voir avec mon rêve, quand même.
Non, c'est vrai, mais c'est une jolie histoire.
C'est pas faux, merci. Alors, toujours intrigué par Christophe Honoré, Christophe André, pardon, et son CD de méditation, ben j'ai craqué à nouveau. Au bout de 4 secondes, je me suis endormi et comme d'hab, un rêve m'a envahi. J'étais chez moi avec Christophe qui tentait de m'enseigner la méditation, comme dans son CD.
Nous allons parler aujourd'hui de l'intérêt de savourer.
Ah, ça me va, Christophe. Si manger un bout, c'est se régaler, c'est de la méditation, moi je suis partant. Pour être honnête, j'avais peur que tu me demandes de m'asseoir façon Shaolin et de brûler du papier d'Arménie en faisant... Non, mais là, si c'est de la méditation par la bouffe, ça me va bien.
Nous allons parler aujourd'hui de la préparation d'une ratatouille.
Et par contre, là, je suis pas méga chaud. Hein. Manger, d'accord, mais la ratatouille, non, je suis pas client.
C'est super plus, bon, hein.
Non, mais ah, ça suffit, vous. La ratatouille, c'est brouillon. Tu vois pas ce que tu piques dans ta fourchette. Non, la ratatouille, sans moi. Toi, tu la manges si tu veux, hein, Christophe. Hein, tu fais ce que tu veux. Moi, je me fais un sandwich de méditation.
Nous allons parler aujourd'hui de la nature.
Ah, là encore, désolé, Chris, mais la nature, hein, c'est joli à la télé quand tu peux zapper, mais les pâquerettes, moi, ça m'emmerde. Je te le dis direct. Hein, moi, la nature, ça me rend nerveux. Quand on est nerveux, c'est pas le top pour méditer. On parle d'autre chose, s'il te plaît, parce que rien que d'en parler, là, ça m'agace.
Nous allons parler aujourd'hui de la méditation de la montagne.
Non, mais la montagne, c'est pareil, Chris. La montagne, c'est la nature avec en plus une côte. Non. Laisse tomber, on passe à autre chose. Moi, le délire marmotte chez moi et tartiflette, ça m'emmerde aussi.
Nous allons parler aujourd'hui de l'utile et de l'inutile.
Oh, bah, dis donc, il me semble que l'inutile, tu l'as bien entamé, hein, surtout toi, mon Christophe, avec tes plans chelous, nature et découverte. Passe-moi la ratatouille, je vais donner la marmotte. Non, allez, on passe à l'utile maintenant.
Nous allons parler aujourd'hui de la manière de réfléchir avec son corps.
Dis, Christophe, tu serais pas en train de me faire un petit plan de ragouille, hein, par hasard ? Parce que je te vois venir, hein. Tiens, on va réfléchir avec son corps, mais tout nu. Oh, bah, dis donc, il y a mon corps qui a envie de te parler. Calme-toi, mon cri-cri.
Nous allons parler aujourd'hui du corps.
Je t'ai dit de me lâcher. Lâche la merde, Christophe, je suis pas intéressé. En plus, t'es trop direct. Tu m'as même pas payé un verre ni invité à danser. Propose ça à Nagui, il a pas de limite, lui, hein. Il est chaud comme un poêlon de raclette. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, dernière chance pour toi, cri-cri.
Nous allons parler aujourd'hui des émotions douloureuses.
Tu cherches les emmerdes, mec. Tu cherches les emmerdes. Il est hors de question que je te laisse me cogner pour m'aider à méditer. C'est quoi cette méthode Dalai Lama dans 50 nuances de gris, c'est ça ? Bonjour le gong, coucou la cravache. Non. Tu m'as pris pour un canasson au prix de Diane. Je crois que je suis pas prêt, désolé Christophe. Et là, brusquement, j'étais réveillé par la sonnette de ma porte. C'était Maître Jean-Philippe Manœuvre. Vous avez trouvé la signification de mon premier rêve, maître ?
Non, je suis venu t'apporter des cotons-tiges.
À demain.
Merci. La bande originale avec Nagui.
Voici Brigitte, leur nouveau titre s'appelle Palladium, c'est dans la bande originale de votre matinée sur France Inter. Et notre invité Christophe André signe 3 minutes à méditer. Là, c'est 3 minutes de musique.
T'es belle quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur, il te. Être aveugle et sourd pour être allé faire un tour, c'est pas la peine de faire semblant. Je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans. Toi et moi, viens, tu chiales, je coule avec toi, viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium.
Brigitte, avec ce nouveau titre Palladium, Christophe André a signé 3 minutes à méditer. Les conférences, je le rappelle, ça sera le 16 octobre prochain avec Ali Rebéi. Puis il y a également un nouvel ouvrage que vous publiez, ça s'appelle Méditer avec nous. Là, ce sont 21, on dit méditants, ceux qui...
Oui, méditants, bah, c'est celui qui médite. Et puis on peut parler aussi d'instructeurs, ce sont ceux qui apprennent la méditation.
Et c'est le cas de ces personnes à qui vous avez demandé des conseils donc pour nous guider à la méditation, c'est ça?
Oui, c'est ça. Nous sommes 21 à raconter comment on est venu à la méditation. Pourquoi c'est important pour nous, comment on médite, etc. etc. C'est un très beau livre, passionnant, effectivement.
Tout ça pour ne pas oublier d'être heureux, évidemment. C'est publié chez Odile Jacob. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour Madame Christophe André, qui trouve déjà que son mari travaille trop et fait trop de promos. Désolé, Madame André, j'ai jeté un coup d'œil sur le planning. Et là, il enchaîne avec Taratata et le journal du Hard. Désolé pour le pauvre et pacifique Nagui, qui, je le rappelle, s'est fait traiter. Par Christophe André. Oh la boucherie, la violence du Christophe. Désolé pour les fans transis de l'hypnotique Christophe André qui ont découvert le vrai visage peut-être de ce monstre capable sur le service public à 11h, l'heure où les enfants écoutent, de nous dire...
Fais chier, quel con est...
Oh Christophe, s'il te plaît, on n'est pas chez Ali.
Merci Christophe André, bonne journée, merci Ali Abeille, merci tout le monde. On se retrouve demain avec Thierry Lhermitte.
Non.
Dans la bande originale, et tout de suite c'est Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, salut les amis, bonjour à Christophe André, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Vous n'écoutez que ma voix. Vos paupières sont lourdes. Vous pensez à votre numéro de carte bancaire. Je vous donne mon adresse mail. Bon, allez, salut les amis.
Bonne émission. Ciao, ciao.
Salut, ciao.